Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, François Legault est de passage à Amqui et promène en faire plus pour la santé mentale au Québec. Québec veut relocaliser 200 ménages de Rouyn-Noranda pour les éloigner de la fonderie Orne. Blocage du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, 4 membres des Farfadas sont reconnus coupables et la Pologne rompt les rangs avec le reste de l'OTAN et va livrer des avions de chasse à l'Ukraine.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, comme promis, François Legault s'est dirigé vers Amqui en compagnie des autres chefs des partis d'opposition. Il a été accueilli sur place par près de 200 citoyens qui s'étaient rassemblés.
Il y avait beaucoup de gens qui sont allés quand même. Hein?
Ouais, beaucoup de gens qui se sont réunis sur place, à l'endroit même, là, sur le boulevard Saint-Benoît d'Amqui, pour prendre possession des lieux, hein, une espèce de geste symbolique visant à ne pas perdre cette rue-là à l'horreur qui s'y est déroulée. Donc, a entendu plusieurs témoins de ce qui s'est passé, de cette attaque au camion Bélier, je rappelle, qui a fait 2 morts, Gérald Charest, 65 ans, et Jean Lafrenière, 73 ans, en plus de faire 9 autres blessés. Écouter les témoignages des gens, oui, mais aussi fait certaines promesses. Il a insisté sur le fait que son gouvernement allait prendre des mesures en santé mentale et qu'on allait en savoir plus dans le budget qui doit être déposé le 21 mars prochain. Donc, des nouvelles annonces à venir dans ce cas-ci en santé mentale. On verra de quel il s'agit, mais a même parlé là, d'une certaine responsabilité, culpabilité même d'un peu tout le monde lorsqu'on voit des gestes comme ça.
C'était correct qu'il dise ça, mais c'est plus ou moins vrai. Je veux dire, est-ce qu'on s'est bien ou mal occupé de santé mentale? Écoute, c'est le problème du siècle là, qu'on voit grandir. Les gouvernements de partout dans le monde s'en occupent tant bien que mal, ajoutent des ressources. Mais il y a une limite à ce que tu peux faire, puis là où moi j'ai quasi un malaise. Oui, il faut faire plus en santé mentale. Je pense qu'il fallait le dire aujourd'hui, mais on peut quand même pas dire, on peut quand même pas assurer que ça arrivera plus. C'est-à-dire que mettons que t'investis au Québec plus en santé mentale. Bon, tu vas investir mettons X millions, des dizaines de millions. Bon, là tu vas distribuer ça. Évidemment, à Montréal, on va ramasser une trentaine. À Amqui, là, sérieusement, à Amqui, c'est une petite ville, 6 000 habitants avec au CLSC, tu vas avoir quoi, un employé de plus, mettons. Là. Mettons deux. Mettons un gros investissement sur 2 employés de plus. C'est bien. Peut-être, probablement qu'il les faut. Mais de dire s'il y avait eu 2 employés de plus au CLSC, non, Gagnon n'aurait pas quitté son appart cet après-midi-là avec son pick-up, n'aurait pas posé ce geste-là. Tu pourras jamais dire ça. Je veux dire, est-ce qu'il aurait consulté? Est-ce qu'il aurait peut-être même pas su qu'il y avait des ressources de plus?
Ouais, ça, c'est l'autre affaire. C'est l'autre partie de l'histoire aussi, Mario. C'est toujours de savoir est-ce que les gens vont aller consulter. Ça a été très, très déstigmatisé dans les dernières années aussi. Les troubles de santé mentale.
On a dit Carey Price est allé consulter plein de gens avec, pour justement, là, pour enlever le
stigma,
tabou.
Tôt, ouais.
Pis, mais malgré ça, c'est une lente évolution, des choses qui doivent changer, mais tu sais, à un moment donné, je sais que les élus veulent, aiment pas la, les élus détestent l'impuissance, tu sais, puis il y a un bout devant ce genre d'événement-là où faut que t'acceptes une certaine impuissance de dire c'est vraiment incroyable le gars ce qu'il a fait, mais non, tu pourras pas mettre à côté de chaque trottoir des clôtures de béton. Non, tu pourras pas.
Devant les garderies non plus.
Ben non, c'est ça. Donc, on est face à ça. Est-ce qu'il faut investir en santé mentale? La réponse est oui. Moi, je veux dire ce que j'ai aimé le plus, ce que j'ai trouvé que les gens, spontanément, allaient parler, là. Puis pas juste à François Legault, aux autres élus, aux autres chefs, racontaient leur histoire, racontaient leur vécu, racontaient leur peine, beaucoup de gens connaissaient des victimes décédées ou survivantes. Et ça, j'ai trouvé que c'était peut-être C'est un moment de communication important, là, de le dire, de le raconter, puis de le raconter à des gens, veux pas, des gens qui sont des chefs politiques, qui ont un rôle, puis tout ça. Je pense que ça a fait du bien aux gens, puis pour la communauté, pour la collectivité de la vallée, parce que je déborde d'Amqui, la vallée de la Matapédia, c'est une communauté dans son ensemble. Tu peux aller à cause abscale, à cause saumon, autour. Je pense que ça a fait du bien de voir que, ouais, au nom de tout le Québec, ben, les chefs de parti sont venus nous exprimer quelque chose.
Ouais. De l'autre côté également, aujourd'hui, toujours dans ce dossier-là, c'est des vidéos sur le compte TikTok de Steve Gagnon, le présumé meurtrier dans cette histoire-là à Amqui.
Les as-tu regardé?
Oui. Qui ont refait surface, qui sont plus disponibles d'ailleurs. Ils ont été retirés.
Je les ai regardés hier soir. Parce qu'hier soir, il y en a une qui a circulé. Moi, je l'ai vu. Mais là, je suis allé sur son compte TikTok. Il y en avait 5 ou 6.
Oui, il y en avait quelques-unes. Puis je dois dire, Mario, je suis habitué d'entendre des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, par exemple, par des complotistes ou des gens
Mais lui, c'est un borderline. Mais c'est pas des complots habituels du tout.
Non, c'est
des complots en matière de drogue.
Habituellement, des propos vont être certes décousus ou peut-être vont avoir l'air, là, lorsque quelqu'un publie. De tirer dans tous les sens, ça j'ai déjà vu ça. Par contre, de voir la manière dont Steve Gagnon s'exprimait, là on est à un autre niveau justement de décousu puis de confusion, mêlait le crime organisé, des postes de police chinois, des syndicats, tentait de faire des liens.
Mais moi j'ai noté, c'est drôle, mais moi j'ai noté que au cœur de tout ce que tu dis, il y a toujours la drogue. Puis il a l'air à connaître les noms de drogue, là. T'sais, il parlait des noms de drogue avec une certaine aisance. Mais les complots de mafia, puis de pays, puis tout ça, tout s'entremêle, mais autour de la drogue. Là.
Ouais, sans aucun véritable sens que poussait
beaucoup d'internautes. Non, aucun sens, il n'y a rien à comprendre.
Ce qui a poussé beaucoup d'internautes à commenter sous ces vidéos en affirmant qu'il semblait être en psychose, ni plus ni moins. Est-ce que c'est là le lien avec la drogue? Puis surtout, c'est qu'on comprend qu'il y en a publié un de ces vidéos-là. La dernière vidéo date de quelques heures, exact, juste avant le drame qui s'est déroulé lundi après-midi. Donc, c'est certain qu'on risque de reprendre ces vidéos-là peut-être là, au
procès. Par contre, dans ces vidéos, il n'y a pas d'agressivité vraiment. Tu sais, il y a une espèce de...
Ouais, puis il n'y a pas de menaces qui sont faites. Il n'y a pas une attaque envers un groupe
précis. Une espèce d'écœurement envers comme le système en général à la limite, mais basé sur des affaires incompréhensibles, mais pas... Ouais.
On comprend plus une détresse qu'un motif, là, ouais, vraiment, dans ces vidéos.
Mais c'est ça.
Toujours les affaires politiques. Québec aujourd'hui a annoncé vouloir relocaliser environ 200 ménages de la région qui borde l'usine, la fonderie Horn, pour les habitants de Rouyn-Noranda. On veut pas forcer la main de personne, là, dit-on. Si les gens veulent rester, ils le pourront. Mais on veut déplacer ces gens-là dans un tout nouveau quartier qui devrait être construit aux frais de la multinationale Glencore, en plus d'investir là pour faire l'acquisition des 82 immeubles qui sont situés dans le quartier Notre-Dame, qu'on veut déménager. Justement, le gouvernement, lui, veut investir 58 millions pour les relocaliser dans le nouveau quartier en question. Et en plus, on veut resserrer les obligations de la fonderie Horn. D'ici 5 ans, c'est une moyenne annuelle de 15 nanogrammes d'arsenic par mètre cube dans l'air. Donc, on veut se rapprocher. Il y a un plan d'action d'ici 2027 pour atteindre la norme québécoise. Parce qu'il faut comprendre, des 15 nanogrammes, c'est pas encore la norme québécoise.
Non, la norme québécoise, c'est encore c'est toi.
Ouais, donc on est encore bien au-delà de ça. Donc c'est une.
Mais là, présentement, on est à quoi, 80?
Ouais, on est à beaucoup là. J'ai pas les chiffres exacts devant moi. Ouais. On est à beaucoup plus que ça. Et donc, ben il y a eu toutes sortes de réactions aujourd'hui. Là, même si on a mis en place tout ça, qu'il y a un comité de vigie indépendant qui va être mis en place aussi pour s'assurer que la fonderie respecte ses exigences, dis-je. Les oppositions, elles, ont fustigé le gouvernement ce matin. On dit que ça a pas de bon sens de chasser les gens de chez eux après les avoir empoisonnés pendant des années. Puis il y a des gens qui sont inquiets aussi des ménages qui l'ont appris dans les nouvelles, comme un peu ouais. Tout
mais ça,
le monde.
J'ai vu l'opposition qui reprochait au gouvernement que ça a écoulé. Là, je m'excuse, mais on n'a aucune preuve, là. Tu sais, on n'a aucune preuve que c'est le gouvernement qui a coulé ça, là. Je veux dire, tu sais, parce que là, c'est un document complexe qui a circulé entre plusieurs mains. T'as consulté la santé publique, t'as consulté les autorités. Ouais. Je veux dire, une fois que le document, il y a 30 personnes qui l'ont dans les mains.
Le risque que ça se propage est rendu beaucoup plus
c'est
élevé.
Ça, là. Tu sais, à un moment donné, un journaliste en obtient une copie. Même le journaliste n'avait pas toutes les informations. Il y avait un bout dans la presse hier matin. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas de preuves, j'ai pas d'indication que le gouvernement ait voulu Donc là, on dit les gens l'ont appris dans le journal. Bon, mais là, c'est parce que ça, c'est souvent de même. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas facile de garder quelque chose de confidentiel.
Il y a des inquiétudes parmi la population.
Ah, mais
qui
énorme, l'a mais moi, je trouve que c'est...
On les comprend. Là. C'est une grosse opération de se faire délocaliser à la base. Là, puis relocaliser
moi, c'est
ailleurs.
Le seul point sur lequel je suis sceptique. Regarde, là, ça veut pas dire que c'est pas volontaire du gouvernement que vous l'avez appris dans le journal. Ça a juste coulé. Ça c'est juste été perdu comme nouvelle. Puis évidemment, un journaliste qui l'obtient avant tout le monde, ben, lui, il le publie. Mais le reste, je comprends totalement les inquiétudes de la population. Quoique, je pense qu'on a compris qu'il y avait pas. S'il y avait une solution facile et évidente, là,
on l'aurait prise.
On l'aurait fait. Là, on est devant toutes des moins pires choix. Qu'est-ce qui est le moins pire choix? Ouais, j'ai quand même quelqu'un qui connaît bien le milieu aujourd'hui qui m'expliquait. Il dit, écoute, il faut regarder ça financièrement. Là. On met de côté, parce que c'est ça qui va être compliqué, c'est l'attachement à sa maison. Si t'as planté des fleurs, là, tes fleurs, tu les as plantées il y a 10 ans, là, tes arbustes sont rendus beaux, puis... Tu renonces à ta maison, tu renonces à tout. Mais si tu mets de côté le côté, la partie émotive, financièrement, ce monde-là était mal pris. Parce que toi, t'irais-tu acheter une maison dans le quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda? Là?
Non, c'est ça. C'est pas l'endroit idéal pour élever mes enfants.
Ben, c'est ça, tu mets une pancarte à vendre, ça se peut que le téléphone sonne pas beaucoup. Puis à la limite que pour la vendre, il va falloir que tu baisses ton prix, fait que tu vas obtenir un prix pour ta maison qui est totalement injuste. Donc les gens étaient un peu prisonniers de cette situation-là. Des maisons pas vendables ou peu vendables, en tout cas vendables à un prix qui aurait été extrêmement désavantageux. Je sais que là, quand je fais un calcul comme ça, je suis au niveau de tes finances. En même temps, la maison, pour bien des gens, c'est ton avoir personnel, c'est ton actif, c'est ta retraite, c'est ce que t'as bâti. Fait que là-dessus, là, il y a une protection du capital des gens, là, de leur avoir. C'est-à-dire, on va vous loger dans un quartier, votre maison va être revendable, et tout ça. Mais est-ce que, une fois ça dit, est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être simple? Est-ce que les gens vont être heureux? Là, on comprend que c'est un quartier central dans la ville. Bon, quand tu construis un nouveau quartier, forcément, il est pas central, il reste plus de terrain. Faut que tu t'en ailles en périphérie où il y a des terrains disponibles. Il y a des gens qui avaient pas d'auto parce qu'ils étaient habitués à faire tout à pied, à vivre au centre de la ville. Et là, eux, pas d'auto, ils s'en vont dans un quartier périphérique, plus genre un peu banlieue. Ils vont trouver ça plate. Par contre, là, j'ai vu que le gouvernement avait même dit que si des gens veulent aller, ceux qui sont en appartement, qui vont retourner vers un appartement, puis si leur appart coûte plus cher, on va les compenser financièrement. Je pense qu'on n'économise pas l'argent du côté du gouvernement pour essayer d'une certaine façon d'acheter la paix. Là.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Ça a brassé pas mal en période de questions aujourd'hui, Mario, à l'Assemblée nationale, et c'est Éric Kerr, le ministre de la cybersécurité du numérique, qui était en ligne de mire des oppositions, parce que d'emblée, il a reconnu aujourd'hui que la transition numérique de la SAAQ, de la Société d'assurance automobile du Québec, a été un fiasco, là, pour une fois, vraiment reconnu dans ces mots-là. Là, il ne les a pas mâchés pour reconnaître qu'il y avait eu échec là, du côté de l'exécution de tout ce qui se passait. Une fois de plus réitéré qu'il n'était pas vraiment responsable de ces changements-là, qu'il restait un consultant. Mais là, c'est plusieurs députés libéraux qui l'ont aligné question après question, l'ont martelé dans la chambre au Salon Bleu. On peut entendre un extrait de Marois Risky, député libéral, qui le critiquait aujourd'hui.
Ah, désolé, c'est le shérif qui dit que le député de la pelleterie pâlit. Attention. Il est plus l'ombre de lui-même. En passant, arrêtez de vous promener pour dire que vous n'êtes qu'un simple conseiller et de faire l'éloge de votre insignifiance dans votre rôle.
On peut dire que c'était cinglant, Mario. Est-ce que c'était pour monsieur Kerr?
Non, je pense que c'était préparé comme tel. Je pense que quand ils ont préparé la période des questions, d'abord ils se sont dit le chef est pas là, avec il y a rien à faire, tu sais, François Legault est absent, et ils se sont dit on va faire perdre les pédales à Éric Kerr, qui est quand même un tempérament assez bouillant, tout ça, qui est un bon parlementaire, un habile parlementaire, peut être agressif, mais on a voulu y faire péter les plombs. Écoute, il est dans la controverse depuis plusieurs jours, puis évidemment il est dans la situation. Il n'est pas le premier à vivre ça. J'en ai connu, j'ai vu Guy Chevrette dans la même situation. Quand tu as été un des plus efficaces députés de l'opposition, un des critiques, puis là, lui, écoute, sur les questions de corruption, il a fait payer les autres. Il y a eu des périodes de questions où il était le matamor. Il en a dit des phrases, lui, sur les autres qui reviennent sur le nez aujourd'hui.
Oui, puis il a surtout été intraitable, en plus, sur la transparence, sur tout ce qui est informatique au gouvernement du Québec.
Tout à fait. Et là, il vit un échec. Et en plus, à la première étape, là, les premières entrevues, c'est corrigé cette semaine, mais les premières entrevues entrevue qu'il a donnée, il a eu le réflexe de dire, ah, moi, je prends aucune responsabilité, c'est la SAC, c'est les autres. Fait que là, il en mange toute une. Et, ben, politiquement, en fait, il doit s'en sortir parce que, la façon dont il va se sortir de peut-être une semaine, deux semaines de mauvaise période de questions, c'est ce qui va déterminer au prochain remaniement s'il reste ministre ou s'il reste pas ministre, là.
Sur la scène politique fédérale, on a droit à un nouveau sondage, cette fois-ci de la maison Angus Reid, aujourd'hui. Et tout comme dans l'autre sondage à Bacchus du mois dernier, Justin Trudeau perd des plumes, continue sa dégringolade là, dans les taux d'appui. On parle maintenant, là, ça a chuté de 6 points. On est à 37% pour les taux d'appui de Justin Trudeau. Baisse qui est la même au Québec, là, on a sa chuté de 12 points, l'approbation pour Justin Trudeau, passé de 36% à 24% au Québec. Évidemment, on peut retrouver toutes sortes de dossiers qui sont venus faire parler son étoile ici dans la province. On parle de la nomination d'Amiral Gawabi, l'opposition des députés anglo-montréalais à la loi sur les langues officielles, le chemin Roxham, les transferts en santé. À tout ça vient de s'ajouter l'ingérence chinoise. Donc, c'est pas des très bons derniers mois pour Justin Trudeau ici dans l'opinion populaire au Québec. Mais c'est
par contre, Pierre Poilievre ne récupère pas, ne ramasse pas vraiment l'insatisfaction. Oui, le Parti conservateur semble se détacher, mais dès qu'on met le nom de Pierre Poilievre dans la question, c'est plus ça.
Ouais, c'est ça le problème, parce que pour 35% des répondants au sondage, on voterait pour les conservateurs. Ça avance les libéraux à 29%, le NPD à 20%, puis le Bloc à 8%. Mais en dehors de ça, le problème, c'est que M. Poilievre lui-même est perçu de manière très négative par 35% des répondants, négative par 16% des répondants, puis ceux qui le trouvent très positif et positif, c'est 34% seulement comparativement à tout ce qu'on vient d'entendre. Donc le problème, c'est qu'il y a pas beaucoup de gens qui semblent voir dans une bonne lumière M. Poilievre lui-même, même si il a l'air d'avoir un écœurement ou un essoufflement du côté des libéraux. Les conservateurs pourraient en profiter, mais M. Poilievre, c'est pas, disons, un chef qui fait...
Mais tu vois, il y a un sondage léger qui vient de sortir dans la fin d'après-midi, puis qui lui est plus... En fait, qui arrive à la même conclusion pour ce qui est de Trudeau versus Poilievre, mais qui est moins négatif envers le Parti libéral. Donc, mais quand même, qui place le Parti libéral... moins... Le Parti libéral a perdu des plumes depuis l'élection. Là. En un an et demi, c'est sûr. Mais est-ce que c'est des points, dans le fond, la question, est-ce que c'est des points flottants de gens qui sont devenus indécis ou c'est des points que les conservateurs de Pierre Poilievre ont vraiment repris? Ça, pour moi, c'est pas clair du tout. C'est pas réglé.
Tout savoir en 24 minutes.
Après un procès, 4 membres du regroupement des Farfadas ont été reconnus coupables aujourd'hui d'accusations de méfaits et de complots. Tout ça après avoir bloqué le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en mars 2021. Je rappelle les faits, en pleine pandémie, ces 4 membres du groupe des Farfadas ainsi que d'autres personnes, on parle de Steve l'artiste Charland, qui est également le chef de ce groupe-là, puis l'ancien chef du groupe identitaire de la Meute, sa conjointe Carole Lalouve, Tardy, Tommy Rioux et Mario Roy, qui eux avaient plaidé non coupables aux accusations contre eux, et même durant le procès, là, avait annoncé toutes sortes de choses, disait que c'était pas une manifestation contre les mesures sanitaires, finalement.
Mais non, parce que finalement, c'était une manifestation, disait-il, contre...
la brutalité policière.
Pendant les manifestations contre les mesures sanitaires.
Exactement, et donc avait bloqué les 3 voies nord du tunnel, ça avait, en faisant jouer de la musique très fort, ça avait pas plu aux autres automobilistes.
Ça avait créé un peu d'impatience, on peut-tu dire ça?
Moi, il y a un gars qui a saisi un marteau dans sa voiture qui est allé frapper, briser leur lumière sur les autres véhicules qui le bloquaient.
Mais tu sais, moi, tu as peut-être dit que je suis particulier fort, là, mais moi, si je bloquais le tunnel pour le fun, je devinerais que ça va générer de l'impatience derrière moi.
Oui, tu devinerais que certaines personnes vont peut-être pogner les nerfs en bon français.
J'aurais deviné.
Ouais, ben écoute, c'était peut-être pas prévu dans leur plan. Peut-être qu'ils pensaient que le peuple allait être derrière eux, mais là, le tribunal...
C'est bien, parce qu'au fond, ils sont le peuple, eux.
Oui. C'est ça.
Quand t'es le peuple, dès que tu bloques le chemin, tout le monde est content derrière toi, en théorie.
Ben, c'est ce qu'ils voulaient, là.
Parce qu'eux sont pour... le peuple contre les élites, là.
Ben, dans la plupart de la réflexion, oui. Puis eux veulent, justement, aider à libérer les gens, veulent les aider aussi à avoir la vérité pour tout ce qui est le vaccin, pour tout ce qui est l'identité numérique au Québec. T'sais, évidemment, on est dans des groupes qui flirtent ouvertement avec plusieurs théories complotistes. Mais là, ont été, eux, même s'ils ont décidé
non seulement de plaider non coupable, mais aussi de manifester leur désaccord avec le tribunal. Il y en avait encore un d'entre eux aujourd'hui qui avait la veste caractéristique des farfadas avec des patchs qui s'apparentent beaucoup à celle des motards, entre autres, avec un pouce en bas, puis il a écrit le barreau du Québec. Ben, ça a l'air que non seulement ils ont pas apprécié, mais finalement, ben, ils sont reconnus coupables. Donc, on faudra voir quelle sera leur sentence par la suite.
Mais c'est le juge a eu une phrase quand même empreinte de sagesse, là.
Vas-y, Mario.
Non, mais le juge a dit, le tunnel n'est pas un endroit pour aller manifester.
Voilà.
Moi, je me disais, OK, on dit nos tribunaux sont engorgés, là, on manque de temps, peut-être des criminels qui vont s'en sortir. Puis là, non, mais pour vrai, ils ont été longtemps, leur procès, ça a duré, genre, c'est une semaine, 10 jours, plus qu'une semaine, pour arriver à la conclusion que non. Le tunnel n'est pas un endroit pour faire des manifestations. Voilà.
J'espère que nos auditeurs et nos auditrices l'entendent. N'allez pas manifester là.
C'est dit, c'est tranché, mais dès que tu me parles des farfadets, je peux pas m'empêcher de penser à
la commission, hein?
La commission Rouleau.
Ça te revient à chaque fois.
Non, mais où la parce que c'est trop bon comme moment, la juge. Faudra leur sortir, Tristan. On va sortir ça, puis
on
va le mettre dans nos clips.
Est-ce qu'on dit farfadet ou farfada?
Parce que l'avocate du gouvernement est très, un petit peu un ton précieux. Est-ce qu'on dit farfada, farfadet? Puis là, t'as Steve, l'artiste charmant.
Moi, nous autres, on dit farfadet.
On va la retrouver, Mario, puis on va la faire jouer, je te promets.
Nous autres, on dit farfadet.
Je reviens dans un sujet un peu plus sérieux. On a appris hier qu'une journée de rêve au bar à parc du village Vacances Valcartier a viré au drame pour une famille d'Adstock en après-midi. Leur voiture qui a percuté un poids lourd et ça a tué sur le coup un père et deux enfants. Il y avait 6 membres de la famille qui étaient là-dedans. Le père, la mère et leurs 4 enfants. Et là, outre le père, Henrik Asselin qui a perdu la vie, son fils de 12 ans, sa fille de 4 ans aussi. Et là, il reste sa
conjointe. Sa fille de 4 ans avait survécu. Je pense qu'elle est décédée ce matin, là, des suites, des blessures. On avait réussi à la garder en vie.
Exactement.
Essayer de lui sauver la vie.
Et là, sa conjointe et 2 autres enfants qui sont toujours hospitalisés à ce point-ci. Les circonstances de l'accident sont inconnues pour le moment, mais il y a un autre membre de la famille qui, lui, a énoncé une théorie. Il pense que la fatigue pourrait être à l'origine de l'accident, étant donné qu'ils ont passé justement la journée dans des glissades d'eau au bord à parc, pourrait être très fatigué. Il dit que
les producteurs laitiers, donc des gens qui s'étaient élevés très tôt le matin.
Ouais, des producteurs laitiers. Il dit, moi, je crois à la théorie de la fatigue d'après une journée de plaisir avec la famille.
Parce qu'ils ont frappé un camion là de l'entreprise de formation en camionnage, du centre de formation en camionnage.
Ouais.
On semble pas dire là, que le camion lui était hors contrôle.
Non, c'est un tronçon de route qui était droit, la chaussée était sèche. Il y a pas à prime d'abord, il y a pas de facteur qui semble indiquer qu'il pourrait y avoir un accident là ou qui pourrait faciliter un accident. Reste après ça l'erreur humaine. Est-ce qu'il y aurait pu s'endormir au volant le monsieur Henrik Asselin? Peut-être. Évidemment, on tentera de délucider ce qui s'est passé. On pense évidemment aux 3 membres de la famille survivants qui, eux, encore, sont en train de se remettre de tout ça.
Économie.
Grosse acquisition pour Alimentation Couche-Tard qui ont conclu un autre accord international évalué à 4,5 milliards de dollars canadiens pour acheter quelques 2200 magasins qui appartiennent à Total Energies en Europe. Ce qui fait donc que, ça me fait toujours rire de dire ça, Mario, la chaîne de dépanneurs de Laval. C'est rendu tellement énorme, mais c'est quand même, hein, dépanneurs d'ici. On parle là de 1195 établissements en Allemagne, 566 en Belgique, 387 aux Pays-Bas, 45 au Luxembourg.
Ce qui les amène à 5000 quelques cents en Europe. Pas dans le monde. 5200, je pense, en Europe.
Ouais, parce que dans le monde, là, sont à 24 pays et territoires différents, 14 300 magasins. Donc, cet empire, là, de dépanneurs et autres magasins un peu partout dans le monde de Couche-Tard qui continue, là, à s'épandre comme ça.
Mais qui génère des liquidités parce que, tu sais, pour acheter comme ça, là, je veux dire, eux, ils...
Faut avoir du change de l'argent
mais
de
non,
poche.
Non, mais c'est parce qu'ils empruntent pas à 95%, là, tu sais, ils s'étirent pas le coup avec une petite mise de fonds. Ils génèrent des liquidités. À un moment donné, ils ont des milliards dans leur coffre. Puis là, achète, c'est toute une machine économique avec une business de scène. C'est ça qui est fou des dépanneurs. T'sais, c'est une business où sur chaque transaction, tu fais des sous. Mais bon, c'est la
quand France, tu fais c'est avec des scènes qu'on fait des pièces.
Hey boy, c'est dans leur cas. Les autres, ils l'ont compris.
Le monde.
Le président polonais a annoncé aujourd'hui que la Pologne allait rompre les rangs avec le reste de l'OTAN. Ça fait déjà un moment que les autres pays de l'OTAN, dont les États-Unis en premier, refusent de livrer, pour l'instant, disent-ils, des avions de combat à l'Ukraine. Et voilà que ce sera chose faite. On a annoncé 4 MiG-29 qui vont être partagés dans les prochains jours avec l'armée de Kiev. C'est des chasseurs qui sont toujours en service, donc qui sont actifs pour l'armée polonaise. Mais on dit que c'est leurs dernières années d'exploitation. Donc c'est dans les dernières années. On projetait déjà de les remplacer par des F-35 américains.
C'est une grosse nouvelle quand même là, qu'on fournit à l'Ukraine. Puis là, je comprends que la Pologne dit on agit seul. Là, nous, on est des dissidents des pays de l'OTAN.
Oui. Mais ça pourrait peut-être ouvrir la porte à d'autres pays qui pourraient en fournir.
Avant même ça, là, moi, je regardais la nouvelle aujourd'hui et je me disais, ouais, est-ce que Joe Biden est furieux puis a donné vraiment un coup de pied dans sa poubelle en disant, ah, son don ben écœurant, ou bien est-ce que tout le monde fait semblant comme... On regarde d'ailleurs.
Ouais, c'est peut-être plus là, ce scénario-là qui est probable.
Ouais, tout le monde a fait un clin d'œil en Pologne en voulant dire, vas-y, là, dis que tu le fais. Tu sais, pour pas...
Augmenter
l'escalade. Fait qu'on dit la Pologne agit seule, quasiment en contravention de la volonté des autres.
Oui.
Mais avec une certaine complicité que tout le monde est bien content. Ouais, ouais, des avions.
Ouais. Et on dit qu'il y a une quinzaine de MiG comme ça qui sont hérités, là, des années 90, qui appartiennent de conception soviétique à la Pologne.
Et les Ukrainiens, les pilotes ukrainiens, c'est les avions sur lesquels ils sont habitués, là.
Ils sont formés. Et là, ce qu'on a dit, surtout, c'est là, on parle de 4 MiG pour l'instant. On a dit que d'autres appareils sont en cours de maintenance en ce moment et seront probablement eux aussi transférés par la suite, donc c'est peut-être même
pas
la fin.
Ça change la donne là, si l'Ukraine a à nouveau
une flotte aérienne.
Une flotte aérienne, ouais. Résumé l'actualité.